Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand l'autre devient l'ennemi, un dossier de Marc Thibodeau paru le 15 février 2026 dans La Presse, premier de 6 articles. Même si le procédé est vieux comme le monde, la stigmatisation de la différence et de l'étranger en particulier demeure un puissant outil pour les démagogues de tout acabit. Des facteurs relevant aussi bien de la biologie que de la psychologie, de la sociologie ou de l'économie ont été avancés pour expliquer son efficacité apparemment inépuisable. Nous et eux. Des spécialistes relèvent que le cerveau est configuré pour reconnaître efficacement la différence et sonner l'alarme, parfois même lorsque la menace est plus imaginaire que réelle. Le biologiste américain Robert Sapolsky raconte dans le livre « Behave » qu'il avait été fasciné, enfant, par le film « La planète des singes » et l'avait revu plusieurs fois, ce qui avait alimenté son intérêt professionnel subséquent pour la primatologie. Il dit avoir été émerveillé de nouveau plusieurs années plus tard en découvrant une anecdote relatée par l'une des vedettes principales, Charlton Heston, relativement au comportement des acteurs incarnant des gorilles et des chimpanzés. Même si la direction n'imposait aucune restriction de cette nature, les deux groupes tendaient à se séparer à l'heure du dîner, ce comportement reflétant, selon M. Sapolsky, une forte propension humaine à former des dichotomies entre « nous » et « eux », parfois sur la base de différences ténues. Dans l'ambitieux ouvrage datant de 2017, le chercheur, qui enseigne à l'Université Stanford, relève que le cerveau humain est remarquablement doté pour gérer ses divisions et peut, en une fraction de seconde, détecter des éléments entraînant une réaction divergente. Sur la base notamment de différences raciales rapidement appréhendées, l'amygdale, une structure neurologique jouant un rôle dans les mécanismes de peur et d'agression, peut être activée. Autre découverte déprimante, selon M. Sapolsky, la région du cortex spécialisée dans la reconnaissance faciale s'active moins face à un visage de couleur différente, ce qui explique que des personnes se souviennent mieux des détails de visage semblables aux leurs. Citation : On peut prétendre que l'on juge quelqu'un par son caractère plutôt que par la couleur de sa peau, mais le cerveau note la couleur diablement vite. Fin de citation, souligne Robert Sapolsky. Les humains, forts de capacités cognitives avancées, ne sont évidemment pas condamnés pour autant à être racistes, note le chercheur, qui explore aussi bien dans son travail la biologie de la violence, de l'agression et de la compétition que celle de la coopération, de l'empathie et de l'altruisme. Un autre chercheur américain, Stephen Hopfall, écrit dans « Tribalism », ouvrage axé sur les origines évolutionnistes des politiques de la peur, que les êtres humains sont, citation, génétiquement prédisposés et formés culturellement pour défendre et agresser, voire se sacrifier, fin de citation, pour préserver la famille et la tribu. Le cerveau, souligne-t-il, a la capacité de traiter efficacement et rationnellement des informations complexes, mais peut tomber, lorsque la menace perçue est suffisamment grave, sous le joug de structures neurologiques primitives qui exigent une réponse plus rapide et décisive. Selon M. Hopfall, les démagogues qui martèlent avec insistance que la cohésion et l'avenir d'une population sont mis en péril par un autre groupe peuvent, dans un contexte de fragilisation économique et identitaire, en arriver à générer une réaction violente chez leurs partisans, même lorsque le risque est moindre que ce qui est annoncé. Citation : La xénophobie est l'une des prédispositions génétiques les plus marquées envers ceux qu'on ne connaît pas, l'autre avec un A majuscule, parce que l'autre a été une menace constante dans l'histoire de notre évolution. Fin de citation, relève l'auteur. C'était « Quand l'autre devient l'ennemi », un dossier de Marc Thibodeau paru le 15 février 2026 dans La Presse, premier de 6 articles.
Statut d'élimination rougeole. Une perte embarrassante, entre guillemets, pour le Canada. un texte de Eliette Lévy, publié le 4 décembre 2025 dans La Liberté. Citation. « C'était attendu », dit le microbiologiste Philippe Lagacévien, en réponse à cette nouvelle. Selon les experts, des petites éclosions de rougeole n'ont pas été rares au fil des ans depuis que la maladie a été officiellement considérée comme éliminée au Canada en 1998. Ces transmissions ont tendance à être de courte durée en raison d'un taux de vaccination élevé qui empêche la propagation généralisée du virus. Cependant, après environ 6 à 8 mois de transmission continue dans tout le pays, il est devenu clair aux yeux des experts que la situation d'élimination serait bientôt perdue. Citation. Le taux d'immunisation dans certaines régions du pays était insuffisant pour la protection complète de la communauté. C'était évident que ça prendrait plus que 12 mois à contrôler l'éclosion. Fin de citation. Il ajoute que, bien que la situation se soit progressivement améliorée, il est probable que le pays ne retrouve pas son statut d'élimination avant au moins 2 ou 3 ans, puisqu'il faut une élimination complète des cas pendant 12 mois consécutifs. Le nombre de cas de rougeole au Canada a lentement diminué depuis l'été, mais le Dr Lagacévien souligne que cela est normal pour un virus qui provoque une immunité aussi forte. Plus le nombre de personnes non vaccinées infectées est élevé, plus l'immunisation collective est importante. Citation. La vraie différence, évidemment, c'est qu'un vaccin est entièrement sécuritaire comparé au virus lui-même qui provoque des maladies très sérieuses, des pneumonies, des admissions à l'hôpital et, dans certains cas, des séjours aux soins intensifs et même la mortalité. Fin de citation. La non-vaccination reste un problème. Selon les chiffres de la province, 87,2% des cas de rougeole au Manitoba concernaient des personnes qui n'avaient reçu aucune des 2 doses du vaccin. Tout au long de la pandémie et au cours des années qui ont suivi, le nombre de vaccinations contre la rougeole n'est pas revenu au taux antérieur. Et bien que les taux de vaccination aient augmenté au cours de l'année dernière, Philippe Lagacévien affirme qu'il reste difficile d'atteindre les personnes réticentes à être immunisées en raison du sentiment anti-vax qui grimpe depuis la COVID. Citation. C'est assez facile de retrouver les gens qui ont manqué leur immunisation, qu'on a perdu du système pendant la pandémie. Mais on souffre quand même d'une certaine résistance aux immunisations et c'est ce groupe-là où c'est difficile parce que ça prend beaucoup d'efforts, d'éducation, de discussion avec des parents, des adultes qui ne sont pas immunisés. Fin de citation. Pour cette raison, il est possible que le nombre de cas recommence à augmenter, contredisant ainsi la tendance actuelle à la baisse. Plusieurs communautés n'ont encore enregistré aucun cas d'infection, mais leur faible taux de vaccination les rend vulnérables à une éventuelle épidémie. C'est la raison pour laquelle le Canada a connu plusieurs épidémies de rougeole le plus grave toutes les quelques années. Par exemple, en 2011, le Canada avait enregistré 752 cas, une épidémie qui s'était pratiquement résorbée l'année suivante. Citation. Le virus infecte 95% des gens, ce qui cause une immunité très élevée dans la communauté par l'infection. Et puis là, ça disparaît pour plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau groupe d'individus, les enfants, qui y sont encore susceptibles. Fin de citation. Une perte embarrassante pour le Canada. Selon Philippe Lagacévien, la perte du statut d'élimination vise principalement à inciter un pays à l'action à travers des pressions diplomatiques. La perte de ce statut est considérée comme un embarras national sur la scène internationale, surtout pour un pays avec un système de santé universel avancé et un programme de vaccination gratuit. Citation, non seulement on a perdu le statut, mais on a aussi fait perdre le statut des Amériques en entier, qui était la première région du monde à déclarer que la rougeole était éliminée, précise le docteur, bien qu'il est prévu que les États-Unis perdront eux aussi leur statut bientôt. Sur le plan politique, cela signifie que d'autres pays pourraient exiger que leurs voyageurs soient vaccinés contre la rougeole avant de se rendre au Canada, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'industrie du tourisme. Mais la pression internationale aura probablement peu d'effet. Les soins de santé sont une responsabilité provinciale, ce qui signifie que chacune d'entre elles aura sa propre façon de gérer les épidémies et les programmes de vaccination. Citation, le fédéral peut faire des déclarations, offrir un certain soutien financier pour la santé publique. Mais on voit plutôt des coupes au niveau fédéral que des financements en santé publique. Je crains que ce sera difficile d'avoir une approche unie. Fin de citation. Au Manitoba, le gouvernement a redoublé d'efforts pour encourager la vaccination et retracer les personnes infectées. Mais le docteur Lagacévien estime qu'il serait possible d'en faire davantage en matière d'accessibilité. Cela impliquerait garantir la distribution des vaccins dans toutes les pharmacies et cliniques et d'inciter les personnes qui n'ont reçu qu'une seule dose à se faire vacciner complètement. Citation, la grande majorité des gens qui croient qu'ils sont immunisés complètement ne le sont pas, souligne-t-il. Avoir un moyen simple d'accéder à son dossier vaccinal complet, cela a été le cas pendant la pandémie, pourrait aider les gens à vérifier leurs propres informations médicales et permettre aux institutions de santé publique d'envoyer à chacun des rappels de vaccination. Fin de citation. C'était « Statut d'élimination rougeole, une perte embarrassante pour le Canada », un texte de Eliette Lévy, publié le 4 décembre 2025 dans « La Liberté ».
Lait de vache ou lait de chèvre, lequel est le meilleur? Un texte de Mathieu Perrault paru le 28 décembre 2025 dans la presse. Le lait de chèvre a plus de sucre complexe que le lait de vache et ressemble plus au lait maternel, selon Daniel Bojard, biologiste de l'Université de Göteborg en Suède, spécialiste de l'analyse comparée des laits de mammifères. Ces sucres sont dirigés plus lentement par l'organisme, ce qui fournit une énergie durable. Mais personne n'a testé sérieusement les bénéfices pour la santé des sucres complexes dans le lait jusqu'à maintenant, dit M. Bojard. Cet avantage du lait de chèvre au niveau des sucres complexes pousse certains chercheurs à penser qu'il est meilleur que le lait de vache. Le lactose, un sucre plus simple, est le principal sucre du lait et se retrouve en quantité similaire dans le lait de chèvre et celui de vache. Même chose pour les gras et les protéines, note le biologiste suédois. Les sucres dans le lait varient aussi selon les différentes races de vaches et de chèvres. Une étude européenne, publiée dans l'International Journal of Gastronomy and Food Science en 2025, a conclu que le lait de chèvre est moins apprécié par les consommateurs à cause de son goût moins neutre que celui du lait de vache. Moutons et phoques. Un lait encore moins couru, celui de la brebis, est beaucoup plus riche en gras et protéines que les laits de chèvre et de vache, souligne Daniel Bojard. Mais, dit-il, il y a deux fois plus de lait de chèvre que de lait de brebis produit dans le monde. Les chèvres sont plus faciles à élever que les brebis et produisent plus de lait. Une chèvre produit 10 fois moins de lait qu'une vache. À noter, une grande proportion des laits de chèvre et de brebis est destinée au fromage. Le lait de phoque est l'un des plus comparables à celui des mères humaines au niveau de la diversité de ses composantes, selon une étude publiée par M. Bojard dans la revue Nature Communications. Souvent, les animaux sauvages ont des laits ayant plus de diversité, explique-t-il. Ce qui est surprenant, c'est que les 2/3 des molécules présentes dans le lait de phoque ne sont pas dans le lait humain. Ça pourrait constituer une source de nouvelles molécules à ajouter dans le lait en poudre. Le chercheur suédois a étudié des phoques gris de l'île de May, en Écosse. Les phoques ont une lactation très particulière, relate-t-il. Elles ne durent que 17 jours. Le lait est très riche, probablement parce que les jeunes phoques vivent dans des régions très froides. Et les bébés phoques boivent beaucoup. Alors, la mère perd énormément de poids. Elle n'a pas le temps de manger. À la fin de l'allaitement, la maman phoque est littéralement en train de mourir de faim. En savoir plus. 253 000, c'est le nombre de chèvres laitières au Canada en 2021. 1,4 million, le nombre de vaches et de génisses laitières au Canada en 2024. 3150, c'est le nombre de brebis laitières au Québec en 2025. C'était « Lait de vache ou lait de chèvre, lequel est le meilleur ?» Un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 décembre 2025 dans la presse.
Montcalm n'est pas mort ici. Un texte de Dave Noël, paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir. La plaque commémorative indiquant l'endroit où Montcalm est mort au lendemain de la bataille des Plaines de Brame induit les touristes en erreur depuis plus de 25 ans dans le Vieux-Québec. Le général français n'est pas décédé au 47 rue Saint-Louis, mais au 59, dans une maison appartenant aujourd'hui au ministère de la Défense nationale. Le bâtiment en pierre de grès, érigé à compter de 1705, est l'un des secrets les mieux gardés du Vieux-Québec. Des bals somptueux et des jeux de hasard indécents y ont été organisés dans la dernière décennie d'existence de la Nouvelle-France, marquée par la guerre de la conquête. Le rez-de-chaussée de l'édifice comprenait autrefois une grande salle, deux cabinets de travail, une cuisine et quatre chambres. Des miroirs étaient fixés au-dessus des manteaux de cheminée, ce qui témoignait d'un grand luxe pour l'époque. Cette résidence était animée par Angélique Péan, que les historiens du 19e siècle ont surnommée malicieusement la Pompadour du Canada. Elle s'était fait une petite cour de personnes de son caractère qui, par leurs égards, méritèrent sa protection et firent des fortunes immenses, écrit son contemporain Louis de Courville. Le salon de Lélie était notamment fréquenté par les officiers de l'armée française du Canada, à commencer par Montcalm, qui était loin de se douter qu'il y terminerait ses jours dans d'atroces souffrances. Angélique Péan était pleine d'esprit, d'un caractère assez doux et obligeante, selon les mémoires du notaire Louis de Courville. Abri anti-bombe. En 1758, l'hôtel Péan est vendu au chirurgien André Arnoux pour 30 000 livres, l'équivalent du salaire annuel de Montcalm à ses débuts au Canada. Angélique y demeure toutefois jusqu'à l'arrivée devant Québec de la flotte d'invasion britannique transportant le corps expéditionnaire du général Wolfe en juin 1759. Un abri anti-bombe est rapidement aménagé dans la résidence. Les voitures manquent pour les fortifications, mais non pour voiturer les matériaux nécessaires pour faire une casemate chez Mme Péan, dénonce l'officier d'artillerie Montbéliard. Quelque tragique que puisse et doive être le dénouement de tout ceci, on ne peut s'empêcher de rire. Les historiens qui ont visité les voûtes de la maison Péan au début du 20e siècle ont perçu dans l'épaisseur, hors de l'ordinaire, de ces murs des traces de blindage. Le Devoir a eu la chance d'arpenter ce souterrain mystérieux qui a alimenté les fantasmes du romancier victorien William Kirby au tournant des années 1870. À travers un dédale de pièces enduites de crépi, on aboutit à une porte carrée menant à un lieu d'entreposage. On y découvre un alignement de pneus et de jouets pour enfants appartenant aux occupants des étages supérieurs. Aucune trace toutefois des sommes détournées par François Bigot, l'intendant de la Nouvelle-France, dont Angélique fut la maîtresse avec l'accord tacite de son mari. En venant sur nos pas, on remarque un système de chauffage à l'eau chaude dont les tuyaux se perdent dans le plafond. On y aperçoit le dessous du plancher de bois du rez-de-chaussée où Montcalm est mort. C'est le plus près que nous pourrons aller. Les occupants des appartements administrés par l'Agence de logement des forces canadiennes ayant refusé leur accès au Devoir. Après conquête, Selon un rapport de Parc Canada, le rez-de-chaussée de la maison Péan a conservé l'esprit de l'occupation de l'espace du régime français à travers ses vestibules et ses cloisons intérieures. On y trouve, en outre, un foyer de la fin du 18e siècle. La demeure semble avoir échappé aux bombardements britanniques de l'été 1759 qui ont détruit 80 % des bâtiments de Québec. Elle aurait vraisemblablement été protégée par la fortification surélevée du Cavalier du Moulin, située dans l'axe des projectiles lancés à partir de Lévis. « Au moins, je ne verrai pas les Anglais à Québec », aurait déclaré Montcalm en apprenant qu'il ne survivrait pas à ses blessures. S'il avait tenu le coup un peu plus longtemps, le marquis aurait peut-être croisé le général britannique James Murray, qui a déposé ses malles dans la maison Péan à la suite de la reddition de Québec le 18 septembre 1759. Passée de main en main, la maison a été lourdement endommagée en 1796 par l'incendie de sa toiture. On en a profité pour rehausser l'édifice d'un étage. La conservation de son enveloppe du régime français est perceptible dans la pierre, sa subdivision intérieure et l'emplacement de la porte d'entrée, indique une analyse de Parc Canada. En 1811, l'armée britannique acquiert la maison Péan pour y loger des officiers en garnison. Elle a conservé cette fonction pour les forces canadiennes. Jusqu'en 2021, on trouvait à son encoignure un grand orme, dont les racines avaient recouvert une bombe du 18e siècle plantée dans le sol en guise de chasse-roue. Maison Montcalm. Blessé au bas-ventre lors de la déroute des Plaines d'Abraham, le général Montcalm franchit les remparts de Québec en passant par la Porte Saint-Louis. Ses soldats le raccompagnent jusqu'à la maison Péan, où il meurt le lendemain matin d'une inflammation du péritoine. Angélique Péan est absente, ayant quitté la ville au début de l'été. Au soir de sa mort, le général est inhumé non loin de là, sous le plancher de la chapelle des Ursulines de Québec. Le lieu du décès de Montcalm est révélé dans les mémoires de son aide-de-camp, le chevalier de Johnstone. Les historiens ont toutefois mis du temps avant de repérer l'endroit. François-Xavier Garneau fait ainsi mourir Montcalm entre les murs criblés de boulets du château Saint-Louis, la résidence du gouverneur de la Nouvelle-France. Les regards se tournent rapidement vers la maison Jacquet, présentée comme la « Montcalm House » sur les premières cartes postales de Québec. Cette dernière est ensuite supplantée par une autre résidence de la rue Saint-Louis, dont la renommée naissante ne l'a pas empêchée d'être rasée à la fin du 19e siècle. C'est sur le bâtiment reconstruit à cet endroit, au 47 rue Saint-Louis, qu'une plaque a été apposée en 1999 par la ministre de la Culture Agnès Maltais et le maire de Québec Jean-Paul Lallier. Ses concepteurs n'ont visiblement pas tenu compte des travaux de l'historien Philippe Babie-Casgrain, qui a produit une brochure fouillée sur le sujet dès 1903. La Ville de Québec n'a reçu qu'une seule plainte en lien avec cette plaque dans les 25 dernières années. Elle est venue d'un citoyen convaincu que Montcalm était plutôt décédé dans la maison Jacquet. C'était « Montcalm n'est pas mort ici », un texte de Dave Noël, paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir.
L'avenir accessible de Clare, un texte de Shannon Nickerson, publié le 27 novembre 2025 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. La municipalité de Clare a terminé, le 14 novembre dernier, la quatrième session de consultation communautaire dans le cadre de son initiative d'engagement communautaire visant à mettre à jour son plan d'accessibilité. Il s'agit de la quatrième session d'engagement public organisée dans le cadre d'une série d'événements baptisés « Rendez-vous de l'accessibilité » qui a pour objectif d'identifier et d'éliminer les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans la communauté. La journée porte ouverte était structurée de manière à faciliter des discussions ciblées avec 4 kiosques thématiques consacrés aux domaines clés du plan d'accessibilité, l'environnement bâti, les transports, l'information et la communication, ainsi que les produits et services. Un cinquième domaine, l'emploi, est traité dans le cadre de processus municipaux internes. La coordination du processus est assurée par Marc-Alexandre Bouchard, nouveau coordonnateur de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de l'accessibilité, et DIA, de la municipalité. La mise à jour est gérée selon un processus en 10 étapes. Nous en sommes actuellement à la 4e étape du processus qui consiste à mobiliser la communauté, a expliqué M. Bouchard. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'objectif provincial de la Nouvelle-Écosse de devenir une province sans obstacles d'ici 2030. Elle sert de mise à jour au plan d'accessibilité 2023-2026, décrit dans son introduction par la présidente de l'époque, Nadine Comeau, comme un document vivant destiné à évoluer en fonction des besoins de la communauté. La mise à jour est guidée par le Comité consultatif sur l'accessibilité, CCA, composé de membres de la communauté, de conseillers municipaux et d'employés. Le comité, créé en novembre 2021, est actuellement présidé par la conseillère Réanne Evans, qui supervise la mise à jour du plan. Monsieur Bouchard explique que, lors de ces séances, le défi le plus important soulevé par les résidents concerne le transport. Actuellement, le service principal dans la région est Transport de Clare. Ce dernier est un organisme de bienfaisance enregistré, financé en partie par Service Nova Scotia et Relations municipales dans le cadre du Programme d'aide au transport communautaire, CTAP. C'était L'avenir accessible de Clare, un texte de Shannon Nickerson, publié le 27 novembre 2025 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse.